C'est parti. Donc, ce matin, on va continuer la série qu'on a commencée il y a quelques mois sur les miracles du Seigneur Jésus. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on a déjà vu deux miracles. On a vu le miracle du lépreux et on a vu aussi le miracle du paralytique, exactement, hein, qui nous montre qu'on n'est pas capable d'aller vers Jésus de nous-mêmes. Jésus met des chemins, des gens sur notre chemin pour nous attirer à lui. Et ce matin, on va continuer la série. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, au début, j'ai mentionné que Luc, c'est pas écrit de manière chronologique, mais où est-ce que Luc met les miracles, c'est pas par hasard où est-ce qu'il les a placés dans son évangile. Et on va voir ce matin que le miracle qu'on va regarder ensemble, il n'a pas été placé là par hasard. Parce que le miracle qu'on va regarder se trouve dans Luc 7, et il est placé juste après le sermon sur la montagne que le Seigneur Jésus a donné aux disciples. Et tout de suite après, notre miracle se passe. Et ce n'est pas par hasard. Au chapitre 7, on va voir le miracle de la guérison du serviteur du centenier romain. Et en réalité, pourquoi Luc a mis ça? Parce que Luc a montré dans le chapitre 6, comment vivre en tant qu'enfant de Dieu, comment un enfant du royaume devrait vivre. C'est ça, dans le fond, le sermon sur la montagne. Hein? Jésus nous dit comment on devrait marcher, comment on devrait pardonner, comment on devrait aimer, comment on devrait servir. Et là, Luc, tout de suite après, au chapitre 7, va nous donner un exemple en chair et en os. Jésus l'a prêché, et Luc va nous présenter un homme qui est un exemple de comment on vit en tant qu'enfant du royaume. Et c'est bizarre parce que cet homme-là, c'est un Romain. C'est un païen. En fait, il fait partie du peuple qui oppresse Israël. Et c'est cette personne-là que Dieu, dans sa bonté, va nous utiliser pour nous montrer comment un enfant de Dieu vit vraiment. Et cet homme-là, on pourrait dire, est le seul homme qui peut se vanter dans le Nouveau Testament d'avoir impressionné le Seigneur Jésus, comme on va le voir tantôt. Il n'y a pas grand gens, il n'y a pas grand homme sur la terre qui peut se dire qui a impressionné le Seigneur Jésus, mais cet homme-là l'a fait. Et on va voir tantôt comment. Donc, j'aimerais qu'on tourne dans Luc 7. J'aimerais lire les versets 1 à 10. La guérison du serviteur de centenier romain. Donc, Luc 7, 1 à 10, nous dit ceci. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, les discours, c'est le sermon sur la montagne, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui était malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instants supplications en disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus étant allé avec eux, n'était point guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je me suis cru digne d'aller auprès de toi. » C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un va et il va, et à l'autre vient et il vient, et à mon serviteur fait cela et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier. Il se tourna vers la foule, le suivait. La foule, il dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Et ce matin, on va voir trois choses dans le texte qui ressortent de ce centenier et qu'en tant qu'enfant du royaume de Dieu, on devrait cultiver dans nos vies. La première chose, c'est l'amour. On va voir que ce centenier-là vraiment aimé. La deuxième chose, l'humilité. Et la troisième chose, la foi. Trois choses qu'en tant qu'enfant de Dieu, on devrait cultiver dans nos vies, parce que c'est un exemple de comment vivre le sermon sur la montagne, cet homme-là. Une chose que j'aimerais faire remarquer avant, c'est que, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans les deux autres miracles, l'accent est mis sur la personne qui est malade. Le lépreux et la personne qui n'était pas capable de marcher. Mais ici, c'est comme si le Seigneur enlevait le spot et il enlève du malade. On ne le voit même pas, le malade. On entend juste parler au début et à la fin. Ce que le Seigneur veut faire ressortir, c'est le centenier romain lui-même, qui est différent des autres miracles. Parce que normalement, Jésus va les voir, il leur parle, il dit ta foi t'a guéri. Mais lui, on ne le voit même pas, le malade. Il n'est même pas présent. Donc, premièrement, une vie marquée par l'amour. Le chapitre 1 nous dit, Jésus, après avoir achevé ces discours-là, qui était le sermon sur la montagne, Jésus rentre dans Capernaum, qui était la ville où Jésus demeurait. Et on dit, un centenier romain avait un serviteur auquel il était très attaché et qui était sur le point de, qui était malade sur le point de mourir. Trois choses que j'aimerais regarder premièrement. Le centenier, qui demande à être guéri, et il dit qu'il était très attaché. Et on va voir tantôt, c'est pas normal dans le contexte culturel. Pour comprendre pourquoi ce miracle-là, l'amour ressort tellement, il faut comprendre le contexte du temps. Premièrement, il faut comprendre, c'est quoi un centenier? Nous, on n'en a pas de centenier. C'est quoi un centenier? Ensuite, il faut comprendre comment les gens du temps traitaient leurs esclaves. Parce que c'est vrai, c'est vraiment important pour comprendre. Pourquoi je vous dis que dans ce miracle-là, l'amour, cet homme-là nous montre vraiment un amour inconditionnel qu'en tant qu'enfant de Dieu, on est appelé à avoir. Voyez-vous, un centenier, c'est un homme fort. C'est pas un faible. Pour être responsable de 100 soldats dans l'armée de Néron, il fallait que tu sois un homme. Pour être choisi, centenier, tu n'étais pas un homme ordinaire. Tu avais besoin de deux choses. Tu devais être un soldat accompli et être un bon administrateur. Et voici comment la description d'un centenier du temps. On dit les centeniers étaient toujours choisis par les Romains, parmi les Romains les plus stables, et étaient reconnus comme des hommes de confiance. Ils étaient des hommes qui avaient démontré leur courage et leur maturité. Ils étaient des hommes habitués au sang, à la guerre, et ils étaient en place pour faire régner l'ordre et la justice. C'est pas un deux pique, le gars, là. C'est pas un faible. Un homme habitué au sang, un homme qui fait régner l'ordre. Rappelez-vous quand Jésus est sur la croix, qui est responsable pour garder Jésus de la crucifixion? Un centenier. Ils étaient habitués, le même, de crucifier des gens. C'était des hommes durs. Ça, c'est le centenier qui va demander à Jésus: viens guérir mon enfant. Non, mon serviteur. Et il faut comprendre que dans le temps, le mot qu'on a dans nos bibles, c'est serviteur. Mais en grec, le mot c'est doulos. C'est mon esclave. Et dans le temps, un esclave, c'était vraiment traité comme quelque chose sans valeur. Comme une paire de souliers. Tu l'achetais, il tombait malade, souvent on le laissait mourir. On ne s'occupait même pas des esclaves. On achetait un autre, c'était fini. Donc, un homme de guerre qui est là pour supposément écraser le peuple, lui, il envoie quelqu'un pour dire: Seigneur, viens guérir mon esclave. C'est pas normal. Normalement, un esclave, c'est comme un outil. Quand il ne fonctionne plus, tu jettes la poubelle, tu en achètes un autre. C'est assez simple comme ça. Et en plus, ça nous dit qu'il était très attaché.
Et le mot ici veut dire en grec une haute estime, celui qu'on honore, quelque chose qui est précieux. Fait qu'imaginez-vous là, un homme fort, un centenier, qui dit à Jésus, « Seigneur, déplace-toi pour venir sauver ma vieille outil que je devrais acheter à la poubelle. » Quelque chose qui a une grande valeur pour moi. Puis pour toutes les gens, on s'en débarrassait comme ça n'avait aucune valeur. Parce que vous voyez l'amour de ce centenier romain-là? C'est pas un amour normal. Surtout pour qui il était. Et en plus, ça nous dit qu'il a supplié les gens d'aller vers Jésus. En anglais, ils disent « they begged him ». S'il vous plaît! Que vous voyez comment cet homme-là avait un amour, on dirait dans un sens, sans condition. Son esclave, dans le fond, aurait dû avoir aucune valeur pour lui. Mais pourtant, il dit, je t'en supplie, Jésus, viens voir mon esclave. Viens le guérir. Mais son amour ne s'arrête pas à son esclave. Il a aussi aimé le peuple de Dieu. Parce que regardez plus tard au verset 4, il dit, les anciens arrivèrent auprès de Jésus, lui adressant d'instants supplication en disant, il mérite ce que tu lui accordes. Car il aime notre nation, et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Encore là, les Romains étaient là pourquoi? Oppresser le peuple. Faire régner l'ordre. Et les Juifs, les anciens du peuple qui étaient dans le fond, qui haïssaient les Romains, ils disent à Jésus, « Hey, il nous aime. Il nous aime tellement qu'il a fouillé dans ses poches pour faire bâtir notre synagogue. » Ça serait un petit peu comme, dans un sens, le pire ennemi ici qui fait payer pour vous faire bâtir une belle bâtisse neuve. Ça serait-tu normal?
Amen.
Oui, amen, absolument. Mais c'est ce qu'il a fait. Ce soldat romain-là qui était là pour écraser le peuple, le témoignage que les Juifs lui donnent de lui, c'est un homme qui aime notre peuple, et non seulement ça. Il a fouillé dans ses poches, il a pris de son temps, il a fait bâtir notre synagogue. Est-ce que c'est un amour normal? Non, c'est pas un amour normal. Et ici, quand il dit « il aime notre peuple », le mot, c'est « agapéo ». Vous en avez déjà entendu parler, hein? C'est un amour par choix, c'est pas un feeling. Il a décidé d'aimer les Juifs. Malgré, dans le fond, que les Juifs auraient dû être ses ennemis. Mais consciemment, il a décidé d'aimer le peuple juif, d'en prendre soin. Plutôt que de les écraser, il a décidé de leur faire du bien. Un amour qui prend soin. Regardez dans Luc 3, au verset 14. Quand les soldats sont allés voir Jésus, Jean-Baptiste, un malade à Jean, nous, Jean, on veut te suivre. Qu'est-ce qu'en tant que soldat, il faut qu'on fasse? Et regardez ce que Jean leur dit. Il dit, les soldats aussi lui demandèrent à Jean, et nous, que devons-nous faire? Regardez ce que Jean leur dit. Il leur répondit, ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre sol. Est-ce que c'est ce que ce soldat-là a fait? Et faites beaucoup plus. Jean dit, tu veux plaire à Dieu? Écrase pas les gens dans le sens, vole-les pas, puis travaille pour ton argent. Mais lui, il a aimé un esclave, il a fait bâtir une synagogue, il voulait vraiment montrer un amour différent. Et en tant qu'enfant de Dieu, c'est ça qu'on est appelé à être. Êtes-vous d'accord? Éphésiens 5:1 nous dit ceci. Soyons donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Marchons dans l'amour. Et le verbe marcher est au présent continu. Ça veut dire quoi? Continuer à marcher dans l'amour. Comme aussi le Christ nous a aimés, s'est livré lui-même pour nous, comme une offrande et un sacrifice et un parfum de bonne odeur. On est appelé à être exactement comme ce soldat. Faire du bien. Regardez Jésus qui avait dit au chapitre 6 juste avant, dans le sermon sur la montagne. Jésus a dit ceci. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en fera-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en fera-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux que vous espérez recevoir, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'appareil. Mais regardez ce que le soldat romain a fait. Mais aimez vos ennemis. Faites-leur du bien. Et prêtez sans les désespérer. Et votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut. Car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Est-ce qu'on voit que ce que Jésus a prêché, ce centenier romain-là l'a mis en pratique? Il a aimé ses ennemis. Il leur a fait du bien. Et c'est facile, êtes-vous d'accord? Facile d'aimer nos ennemis?
Non.
Non, c'est pas facile. Mais c'est à quoi on est encouragé. Et dans le premier miracle, c'est ce qu'on voit. Ce soldat romain-là qui décide de demander à Jésus, « S'il vous plaît, viens prendre soin de mon esclave. » Et le témoignage qu'il reçoit, il aime notre nation. Il a même fouillé dans ses poches. La deuxième chose qui ressort de cet homme-là, c'est son humilité. On va retourner au chapitre juste avant, où Jésus nous parle de l'humilité. Au verset 20, il dit, « Alors Jésus, levant les yeux sur ses disciples, il leur dit, « Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume des cieux est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Heureux serez-vous lorsque les gens vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera, et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de Dieu. » Est-ce que c'est des hommes qui sont orgueilleux qu'on entend parler ici? Non, hein? Écrasés, on rit de vous autres. Et cet homme-là est un exemple de comment vivre d'une manière humble. Regardez ce qu'il dit au verset 6. Jésus étant allé vers eux, n'était point garde à la maison quand un centenier envoyait des amis pour lui dire, « Seigneur, ne prends pas tant à peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas digne d'aller en personne vers toi. » Voyez-vous, les anciens disent, « Jésus, tu lui dois bien ça. Il nous aime, prends soin de nous autres. » Ça, c'est ce que les Juifs disent. Qu'est-ce que lui dit lui-même? Je ne suis même pas digne d'aller te rencontrer. Est-ce qu'on voit l'humilité de cet homme-là? C'est un soldat. C'est un centenier. Il aurait pu dire, « Hey, vous faites du bien, là, Jésus. Ah oui, viens t'occuper de mon soldat. » Non! Je ne veux même pas aller vers toi, Jésus, parce que je ne suis même pas assez digne d'aller vers toi. Il y avait exactement la même idée que Jean, quand Jean a dit, en parlant de Jésus, « Je ne suis même pas digne de quoi? » Délier la courroie de ses souliers. Et cet homme-là dit, « Je ne suis même pas assez digne, Jésus, pour aller vers toi. » C'est pour ça que j'ai envoyé des amis. Puis il a bien pensé, je ne suis même pas assez digne que tu viennes chez nous. Fait qu'on va régler ça facile, fait juste dire un mot. Est-ce qu'on voit l'humilité de cet homme-là? Pourtant, c'était un homme important dans la société. C'était un centenier. Il dit deux fois, je ne suis pas digne. Dans son livre sur les miracles de Jésus, Richard Phillips a dit ceci, pourquoi cet homme-là aurait dû être un orgueilleux? C'est dur d'être orgueilleux, hein? Vous d'accord? C'est fait, hein? C'est dur d'être orgueilleux, hein? Mais cet homme-là avait tout pour être un orgueilleux. Et il donne cinq raisons. Voilà les cinq raisons qu'il donne. Premièrement, ce centurion avait une autorité considérable. Il y avait 100 hommes qui travaillaient autour de lui. En plus, il dit que ce centurion faisait partie de l'armée d'occupation. Peuple cruel et faisant pression sur tous les peuples. Il aurait dû être un orgueilleux, là. Mais pas juste ça. Il avait l'estime des anciens. Hey, quand les anciens de la ville, là, ils se déplacent pour dire à Jésus, « Jésus, tu lui dois bien ça. » Ça doit être flatteur, ça. Hein? T'es supposé être un ennemi, et les Juifs disent, « Jésus, tu lui dois bien ça. » En plus, c'était un homme qui était fortuné. Il avait beaucoup de serviteurs. Et il a fait bâtir la synagogue. Fait que c'est un gars qui avait du cash en bon québécois. Ou en franco-ontarien, je devrais dire. C'est un homme qui avait de l'argent. Il aurait dû être orgueilleux. Souvent, les gens, quand ils ont de l'argent, là, ils montrent qu'ils en ont de l'argent. Mais lui, c'est un homme humble. Et finalement, son règne de centurion démontrait que c'était un homme qui avait des compétences. C'était un homme compétent. On ne choisissait pas tout le monde pour être centurion. Il y en avait quelques-uns seulement. C'était un homme qui était compétent, riche, qui était là pour écraser le peuple. Et malgré cela, il dit à Jésus, « Jésus, je ne suis pas digne que tu viennes chez nous. Je ne suis pas digne. » Cet homme-là avait tout pour être un arrogant et un orgueilleux. Et regardez en plus comment il appelle Jésus au verset 6. Il dit, Jésus était allé vers eux, n'était point garde à la maison, quand le centurion envoyait des amis pour lui dire, « Seigneur! » Et ici, le mot, c'est « curios ». C'est « Yahvé ». Il a reconnu qui était Jésus. Il était Dieu. Les Juifs, ils ont dit « Rabbin ». Lui, il a dit « Seigneur ».« Seigneur, viens pas chez nous. Parce que tu es bien trop grand pour moi. Bien trop grand pour moi. Je ne suis pas digne de me présenter devant toi. » Je dirais dans un sens, il a vu qui il était comparé à Dieu. Et on a écouté une série qu'on aime beaucoup avec John Schneider qui s'appelle « Behold Your God ». Et dans la série, « Behold Your God » dit, c'est quand on comprend la grandeur de Dieu qu'on comprend combien petit on est. Et cet homme-là avait compris combien petit il était comparé à celui qui marchait vers sa maison. Et il a dit, « Seigneur, viens pas chez nous, s'il vous plaît. » Il n'est pas chez lui. Parce qu'il a compris que c'était le Dieu Tout-Puissant qui s'en allait dans sa maison. Je pense qu'il y avait l'attitude de Jérémie 6, verset 5, qui nous dit ceci. « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Un homme qui était humble. On est appelé à être humble aussi. Voyez-vous, Jésus était là, il y avait deux personnes avec des visions différentes. Il y avait les Juifs qui voyaient un faiseur de miracles. Et tu avais un centurion qui voyait le Dieu du ciel. Le même Jésus, deux visions différentes. Jéhovah. Il dirait peut-être ce matin, tu as peut-être beaucoup d'argent. Tu as peut-être un bon travail. Tu es peut-être considéré dans la société. Et c'est facile d'être orgueilleux. C'est facile. Et cet homme-là avait tout pour être un orgueilleux. Et pourtant, il a voulu vivre comme un enfant du royaume, différemment. Un homme marqué par l'amour, mais marqué par l'humilité. Et ça a fait une différence, comme on va le voir tantôt. Comme je l'ai dit tantôt, c'est facile de succomber à l'orgueil. Faites juste penser au plus bel ange de Dieu. Lucifer. Imaginez-vous, le plus bel ange de Dieu voyait Dieu face à face, le servait. Qu'est-ce qui a fait que Lucifer est tombé? Son orgueil. Il s'est trouvé tellement beau, tellement grand, tellement puissant, qu'il a voulu dépasser Dieu. Puis on connaît l'histoire, hein? Il était jeté en bas du ciel et un tiers des anges l'ont suivi. Ils sont devenus les démons. C'est pas facile. Non, pas être orgueilleux. C'est pas facile. Mais pourtant, cet homme-là est un exemple d'un homme qui est resté humble. Malgré sa position, malgré son argent, malgré qui il était dans la société, il est resté un homme qui était humble. C.S. Lewis a dit ceci concernant l'humilité. Pas l'humilité, excusez l'orgueil. Il dit, le vice essentiel, le mal suprême, c'est l'orgueil. Impudicité, colère, avidité, ivrognerie. Et tout le reste ne sont que des morsures de puce en comparaison à l'orgueil. C'est l'orgueil qui ouvre la voie à tous les vices et transforme le diable en ce qu'il est. L'orgueil est l'état d'esprit anti-Dieu. C'est fort, hein? L'orgueil est un cancer spirituel qui dévore la possibilité d'aimer et de contentement. Et cet homme-là est un exemple d'un homme qui est humble. L'orgueil est subtil, puis elle détruit beaucoup de choses. Mais on est encouragé à faire le contraire en tant qu'enfant de Dieu. Comme se sent tenir à main. Philippiens 2 nous dit ceci. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ça, c'est facile, hein? Regardez les gens au-dessus de nous. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Puis Dieu a dit la même chose par la bouche de Jérémie. Quelle devrait être l'attitude de nous, les enfants de Dieu, si on est en Christ ce matin? Comment on devrait vivre? Puis ça nous dit ceci. Ainsi par l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifier, qui veut se péter les bretelles, se glorifie d'une chose. D'avoir de l'intelligence et de me connaître. Et de savoir que je suis l'Éternel qui existe, la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir. Dieu ne prend pas plaisir aux orgueilleux. Dieu prend plaisir aux hommes. Vous connaissez le verset qui dit « Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux hommes. » Et c'est cet exemple-là, dans ce miracle-là, que Luc veut nous montrer. Un homme qui aime sans condition, un homme qui est humble, mais aussi un homme qui a une grande foi. Une grande foi. Regardez ce qu'il dit au verset 7. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, je dis à l'un va, et il va. À l'autre, viens, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Lorsque Jésus a entendu ces paroles, il admira le centenier, il se tourna vers la foule, le suivait, il dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Wow! Et le mot en anglais, il admira, je le dis tantôt, c'est « marvel ». Quelqu'un dit, « Wow! » Cet homme-là peut se vanter d'avoir impressionné le Seigneur Jésus par sa foi. Voyez-vous, ce n'est pas son autorité, ce n'est pas son argent, ce n'est pas ses grandes réalisations, ce n'est pas ce qu'il a fait qui a impressionné le Seigneur Jésus. C'est quoi? Sa foi. Il a cru dans l'invisible. Il a dit à Jésus, « Seigneur, casse-toi pas la tête, là. Viens pas chez nous. Fais juste dire un mot. mon serviteur va guérir. Et là, pour impressionner le Seigneur Jésus, pour lui expliquer qu'est-ce qu'il veut dire, il compte une histoire au Seigneur Jésus. Il dit, moi, c'est simple. J'ai des soldats qui travaillent pour moi. Et je dis à un, fais ceci. Et il fait. À un autre, fais ça. Et il le fait. À un autre, va là. Et il va. Donc, pour citer le Seigneur, c'est juste à dire à la maladie. C'est simple quand même. C'est ça qui a impressionné le Seigneur Jésus. Cet homme-là, il s'est dit, moi, j'ai de l'autorité. Je suis juste un homme. Toi, tu es celui qui a toute autorité. Donc, tu as juste à dire à la maladie, lâche mon serviteur tranquille, ça va arriver. Wow, toute une foi, hein? J'aimerais savoir une foi de même. On parlait hier à soir, moi, mon épouse, avec quelqu'un d'autre, on disait, combien de fois qu'on prie, puis on ne crée même pas qu'on va le recevoir? Ça vous arrive-tu ou si on est les seuls? Et cette personne-là disait, c'est vrai, des fois, tu pries, tu demandes quelque chose au Seigneur, ça arrive, puis tu es surpris. On ne devrait pas être surpris. Lui, ce soldat romain-là, quand il dit au Seigneur Jésus, là, déplace-toi même pas. Dans sa tête, à lui, c'est ta classe, t'as déjà fait. Seigneur, casse-toi même pas la tête. Fais juste dire un mot. Et mon serviteur va être guéri. Et on est appelé, en tant qu'enfant de Dieu, à avoir exactement la même foi que ce serviteur romain-là. Et croire que quand on se met à genoux, qu'on demande quelque chose au Seigneur, que le Seigneur va le faire. On est appelé à cette même foi-là. Pas moi. Plus! Parce que nous, on vit après la croix. Lui, la croix n'est même pas venue encore. Nous, on vit après la croix. On a 2000 ans d'histoire de l'Église. On devrait avoir une plus grande foi que cet homme-là. Mais malheureusement, moi, je te dis bien plus comme le Père qui va voir Jésus et qui dit, « Ben, si tu peux faire quelque chose pour moi, Seigneur, j'ai dit, si! » Et il tombe à genoux au pied de Jésus et il dit, « Viens au secours de ma foi. » Et je suis souvent comme ça. Peut-être pas vous autres, mais moi, oui. Mais on est encouragé en tant qu'enfant de Dieu à être comme ce serviteur-là, comme ce centenier-là, qui a dit, Jésus, fais juste dire un mot. On m'obéit, puis moi je suis juste un homme. Pourquoi qu'on ne t'obéirait pas toi? Simple comme ça. Hébreux 11 nous dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Impossible. Peut-être que cet homme-là avait entendu les mots de Jérémie, de psaume 33 qui dit ceci. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Comme la création, hein? Dieu a parlé et la création est apparue. Et ce soldat romain dit, « Jésus, t'es Dieu? » Je m'attends à la même chose de toi. S'il vous plaît, viens même pas chez nous. Pas juste le dire. Tu n'as même pas besoin de venir le voir. Il faut comprendre que dans le temps, les miracles, normalement, la plupart du temps, c'était fait avec un toucher. Mais encore là. Parce que, puis on le voit, hein, combien de gens ont voulu être guéris par Jésus? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés vers Jésus. Pensez à ces lépreux qui n'avaient pas le droit de rentrer dans la ville. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés vers Jésus. Mais lui, il dit, « Ben non, casse-toi pas la tête. Fais juste dire un mot. » Comme le dit M. Philippe dans son livre, il n'est pas étonnant que Jésus ait été émerveillé par cet homme-là. Pourquoi? Il dit, « Ce centenier n'avait pas grandi à l'ombre d'une synagogue. Il n'avait pas été imprégné par la littérature de l'Ancien Testament. Il n'était pas familiarisé avec les oracles de Dieu transmis par les prophètes, mais il savait une chose. Qu'est-ce que l'autorité? Il savait que Jésus l'avait. Et qu'est-ce qu'il y en a, nous autres, qu'on vient d'église le premier dimanche, qu'on a la parole de Dieu, qu'on a l'histoire de l'Église? Lui, c'est surprenant qu'il a eu la foi. Nous, ça ne devrait pas l'être. Il nous a encouragé à avoir la même foi que ce soldat. Et pour terminer, j'aimerais parler d'encore une fois une belle image du salut. À la fin, au verset 10, il dit, de retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéris les serviteurs qui avaient été malades. Jésus a dit un mot et il était guéri instantanément. Et c'est ça le salut. Le salut, ce n'est pas un processus. Quand Jésus dit « Je te pardonne tes péchés », c'est instantané. C'est fini. Voyez-vous, Christ ne traite pas le péché comme un médecin oncologue. Un spécialiste du cancer, quand il veut traiter le cancer, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Là, il va passer des tests. Quel genre de cancer que tu as? Là, après, il va jaser avec ses amis pour dire « Bon, ben là, qu'est-ce qu'on fait? On opère-tu ou on fait juste faire des traitements? » Et si on fait des traitements, bien, quel genre de traitement qu'on va faire? Ça va être de la chimiothérapie, ça va être de la radiothérapie, de la monothérapie. Après, on fait ce qu'on a à faire. Après ça, on est suivi pendant longtemps. Puis après ça, il faut que toi, tu reprennes des forces. Christ ne traite pas le péché comme ça. Quand Christ dit « Tes péchés sont pardonnés », c'est fini. C'est ça la beauté du salut. Instantané. Et j'espère ce matin que chacun de vous, vous avez été gracié par le Seigneur Jésus. Que Christ, vous avez reconnu que vous étiez un pécheur, vous avez besoin de Christ. Par la foi, exactement comme ce centenier romain. Par la foi seulement. Reconnaître qu'on a besoin de Christ. Peut-être que vous connaissez le grand Charles Spurgeon, ce qu'on appelle, l'homme qu'on appelle le prince des prédicateurs, a dit ceci. Il a fait une comparaison entre la guérison du serviteur et la foi. Regardez ce qu'il dit. Il dit, le centurion croyait que Christ pouvait enlever la maladie d'un seul coup. La puissance de Dieu n'est pas limitée ni par le temps, ni par les progrès humains. Pour le Dieu éternel, le temps n'est rien. Pour lui, 1000 ans est comme un jour, et un jour est comme 1000 ans. Ensuite, il compare cette vérité à la foi en disant ceci. La foi qui sauve s'attache à la vérité que Jésus-Christ est présentement à la droite du Père et qui peut en un instant sauver une âme. Et là, il nous donne un exemple. Le larron sur la croix ne croyait pas que son salut allait prendre des mois. Parce qu'il n'y avait pas des mois. Il y avait des heures à vivre. Et il a simplement dit, « Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. » Et la réponse du Seigneur fut, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Sauvé cette journée-là et d'un seul coup. Le pardon n'est pas le résultat de semaines de jeûne, ni de mois de repentance, ni d'années de flagellation. Le pécheur pose ses yeux sur Christ et les péchés disparaissent d'un seul coup. Et c'est exactement ce que Christ a fait avec la maladie de ce serviteur. Christ a dit et ça a été fait. Et c'est une belle image du salut qui est accessible par Jésus. Isaïe 55 nous dit ceci. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées, et qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui pardonne abondamment. On a un Dieu qui pardonne le pécheur repentant. Donc, on est appelé à imiter ce serviteur, ce centenier. Comment? Trois choses. Premièrement, un amour inconditionnel. Aimer nos ennemis, aimer ceux qui nous font du mal. C'est dur, c'est une réalité. C'est facile d'aimer ceux qui nous aiment, ceux qui nous font du bien, ceux qui nous lancent des fleurs. Mais Jésus dit, tu veux vivre un enfant du royaume? Aime les gens qui te font mal. Aime les gens qui parlent de toi. Aime les gens qui te haïssent. Aime les gens que tu vas leur donner quelque chose et tu sais qu'ils ne seront pas capables de te leur donner. Et c'est ça, en tant qu'enfant de Dieu, on est appelé. C'est ça que Luc veut nous dire dans ce miracle-là ce matin. Soyons des hommes et des femmes qui aimons de manière différente. Deuxièmement, des vies marquées par l'humilité. Regardez les gens au-dessous de nous. Et c'est pas dans notre nature, ça. Vous d'accord? Alors que vous n'êtes pas d'accord? C'est pas dans notre nature. Notre nature, c'est de se regarder plus grand que les autres. Et ce soldat romain-là a fait exactement le contraire. Il s'est arrêté à un pauvre serviteur esclave qui aurait dû mourir dans sa maison. Et il a fait déplacer le Dieu du ciel pour dire, fais quelque chose pour moi. L'humilité. Un homme qui aurait dû être orgueilleux et qui ne l'a pas été. Et finalement, une foi sincère. Croire dans l'impossible, croire dans l'invisible. C'est dur, ça. Vous d'accord? C'est dur croire dans l'invisible. Mais cet homme-là croyait que Jésus avait l'autorité et que Jésus avait le pouvoir de le faire. Et c'est ça que les miracles vont nous montrer. Deux choses. Jésus a toute autorité. Jésus a tout pouvoir. Il est capable de faire ce qu'il dit. Jésus a dit à la fin dans Matthieu 28, hein, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Qu'on puisse être des hommes et des femmes de foi, qu'on croit dans notre Dieu, même si des fois ça a l'air impossible, comme cet homme. Les gens se déplaçaient pour aller voir Jésus. Lui, il ne s'est pas déplacé. Il a dit, « Fais juste dire un mot. » C'est ça qu'on est encouragé. Avoir foi dans ce Seigneur Jésus-là, qui a toute autorité. Jésus, ça fait 2000 ans qu'il est mort, mais comme je disais la semaine passée à Buckingham, Jésus n'a pas perdu son pouvoir avec le temps. Nous autres, on vieillit, nous autres, on faiblit. Et pas Dieu. Dieu reste le même hier, aujourd'hui et demain. Et le Christ qui était là il y a 2000 ans, il a le même pouvoir, la même autorité qu'il avait il y a 2000 ans passé. Et savez-vous quoi? Il va l'avoir dans l'éternité aussi. Christ n'a pas changé. Donc, on peut penser à ça cette semaine. L'amour, l'humilité, la foi. On est appelé en tant qu'enfant de Dieu à vivre et à marcher différemment. C'est une réalité. Paul dit, marchez d'une manière digne de l'appel que Dieu vous a fait. Dieu vous a fait un grand appel si vous êtes en Christ ce matin. C'est tout un privilège, là. Pensez, il y a des milliards de gens sur la terre et Dieu s'est arrêté à toi. Dieu t'a appelé. Comme quelqu'un disait, je vais dire un peu cru, là, mais on est allé visiter une madame à l'hôpital, puis elle dit, moi, là, elle dit, j'étais dans la marde, là, il y en avait bien par-dessus moi. Puis le Seigneur a mis sa main dans la marde, puis il est venu me sortir de là. Ça, c'est la réalité. C'est là qu'on était. Mais Christ nous a tellement aimés qu'il a fait ça. Mais Paul dit, à cause de ça, à cause de cet appel-là, marchez d'une manière digne. Marchez différemment. Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi on va assaisonner? Vous êtes la lumière du monde. Mais si vous ne brillez pas, qui va briller dans les ténèbres? De toute façon, on est appelé à être comme ce soldat romain. Vivre d'une manière différente. On va juste terminer pour la prière. Oui, Père, encore une fois, comment je veux te dire merci parce que ta parole est vivante. Et merci, Seigneur, parce que des fois, on peut lire pas réalisé la profondeur d'un miracle, Seigneur. Parce que dans un sens, ça semble simple qu'un homme a simplement envoyé quelqu'un pour te chercher pour que tu guérisses son serviteur. Mais on voit à travers, Seigneur, ce miracle, un homme qui a vraiment vécu comme un enfant du royaume. Dans la foi, dans l'amour, dans l'humilité. Seigneur, viens au secours de ton peuple. Qu'on vive différemment, Seigneur. Qu'on puisse, que les gens autour puissent voir qu'on appartient au Dieu vivant. Seigneur, ne permets pas que nos églises soient des églises qui ne brillent pas pour toi. Viens à notre secours, Seigneur. Encore une fois, merci. Merci pour ce temps. Je demande de bénir Denis et Joanne aussi dans la semaine de vacances. Seigneur, encourage-les à faire du bien dans ta grâce. C'est au nom de Jésus que je te prie.